Hello et bienvenue sur Plouf, le podcast qui part à la rencontre des personnes qui ont chaussé leur brassard pour se lancer dans le grand bain de l'orientation. Aujourd'hui, on part à la rencontre de deux personnes en questionnement, Angéline et Katia. L'une a démissionné de son emploi il y a peu et l'autre se pose des questions sur son rapport à l'entreprise. Bonne écoute!
Angéline, Katia, Angéline, je vais faire comme si vous n'étiez pas déjà rencontrés. En gros, on s'est dit que ça pourrait être trop cool de vous faire discuter un peu sur vos parcours, vos questionnements d'orientation, etc. Parce que, déjà, vous êtes deux personnes très cool, mais parce que vous avez des parcours, je pense, qui ont plein de trucs en commun. Donc, Angéline, je crois que c'est déjà marié Katia, mais je refais rapidement son petit CV. En gros, la punchline, c'est qu'Katia a changé 6 fois d'entreprise en 5 ans. Et voilà. Sachant qu'elle est quand même restée 2 ans dans sa dernière entreprise. Donc, finalement, la punchline a aussi quelques petites nuances. Mais je trouve ça trop cool. Et tu te poses plein de questions sur l'endroit où tu vas vivre plus tard, enfin, la façon dont tu vas travailler après.
Je me pose des questions sur le travail, sur le salariat et sur la place dans la société en général. Donc, ça va même au-delà du travail. Et globalement, c'est pas mal. À force d'avoir tant démissionné, je commence à me dire que le bonheur, il est peut-être pas dans une nouvelle entreprise.
Voilà. Et du coup, Angéline a récemment démissionné de son entreprise, où tu étais depuis 1 an et demi.
Ouais.
Voilà. Et elle a pris 3 mois de pause. Okay. Avant de reprendre là en mi-temps en freelance, tu me dis si jamais j'ai des trucs un peu.
T'es super sérieuse?
Ouais.
Ouais, tout à fait, ouais, c'est bon, c'est ça.
Je suis toujours
en train de faire. Voilà, et se reconvertir, enfin, du moins qui est en cours de reconversion vers le théâtre.
Et tu travaillais dans quoi comme entreprise?
Moi, c'était mon premier job et je travaillais dans un organisme de formation qui faisait de la formation continue. Dans des domaines comme le management, le leadership, l'efficacité professionnelle, le développement personnel, des choses comme ça. Et j'ai démarré en février 2019 et mon contrat de travail s'est terminé là, le 10 juillet de cette année. Donc ça va faire 4 mois maintenant que j'ai quitté ce travail.
C'était une entreprise qui te plaisait, qui t'inspirait, genre c'est là où tu voulais aller.
Ouais, à la toute base, quand j'ai fini mes études, moi je voulais plutôt me diriger vers ce qui m'intéressait, c'était l'entrepreneuriat. En fait, la figure de l'entrepreneur moi, me fascinait assez, et j'avais envie d'être dans une posture d'aidant en fait vis-à-vis de ce personnage-là. Et donc je me voyais travailler dans des endroits comme des incubateurs, des accélérateurs de start-up, des choses comme ça. Et en fait, ça s'est pas du tout passé comme ça, parce que peu d'offres, parce que ceux que j'ai rencontrés, ça a pas fité. Et je suis tombée sur une annonce de l'organisme de formation dans lequel j'ai travaillé, qui m'a parlé, en fait. Je me suis dit, tiens, c'est vrai, l'univers de la formation, en fait, ça m'attire, en fait, quelque part, tout ce qui est pédagogie. Derrière, j'y voyais beaucoup de créativité, beaucoup d'innovation, un secteur aussi vachement, je sais pas, ouais, dynamique, où ça bouge, où ça rebondit, et moi je suis un type de personnalité comme ça, donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas, en fait, ça peut... J'essaye, quoi, je tente dans le process. Et puis de fil en aiguille, en fait, ce truc au départ était complètement opportuniste, en fait. Je commence à rentrer dans le process, et puis je me dis, mais en fait, j'aime beaucoup cette boîte, quoi, j'adore cette boîte. Je fasse passer un entretien collectif. J'adore les locaux, j'adore les gens que je croise, je me dis...
Ça match
en fait, je me dis, en fait maintenant j'ai envie d'y être, quoi. Et je me souviens, je stressais du résultat de l'entretien final, parce que je voulais y être maintenant, quoi. Et là, du coup, je me dis super, parce que il y avait moins cette pression du premier emploi, je me suis dit finalement ça se fait assez naturellement, ouais, je trouve un bon fit de base et tout. Et en fait, la déception en a été encore plus grande, en fait, parce que donc quand j'ai démarré, j'étais tout feu tout flamme, hyper investie, hyper motivée, j'avais plein d'idées, j'étais pleine d'entrain et tout. Et puis au fur et à mesure, en fait, je déchante, quoi. Je déchante parce que je me rends compte que la boîte prône des valeurs et des principes qu'elle n'incarne absolument pas. Depuis, je me suis fait un mantra où je me suis dit, en fait, on n'a pas besoin de... comment dire, de prétendre quelque chose qu'on incarne. Et à partir du moment où on prétend quelque chose, ça veut dire qu'on l'incarnera pas. Ça, c'est bon, c'est la conclusion que j'ai retenue de cette expérience. Enfin, voilà, j'en dirai peut-être après en détail dans les raisons qui ont fait que ça... c'est ça. Au début, j'avais vraiment l'impression que c'était tout beau, tout rose. Je me souviens, je disais à mes potes pendant ma période d'essai, mais ça se passe trop bien. D'habitude, il y a toujours un loup, tu dis, il y a toujours une tare, il y a toujours un truc sur lequel tu vas tomber. Là, je disais, non, vraiment, ça se passe trop bien, je suis contente, mes collègues sont sympas, je finis à 18h.
Trouver ta boîte sœur, comme on trouve son âme sœur.
C'est ça, c'est ça.
J'aime bien cette expression.
Ta boîte sœur. C'est ça. Ouais, il y avait quelque chose, j'avais l'impression de voir de la bienveillance, des choses assez chaleureuses, en fait, qui rendaient l'endroit sympa. Et puis, au fil du temps, je me rends compte quand même qu'avec mon manager, celui qui m'a recruté, je suis fondamentalement mal à l'aise, en fait. À partir du moment où la période d'essai se termine, il y a un truc bizarre qui se passe, où là je me dis, en fait, tu te sens pas bien. T'es pas bien là. Donc là, je parle de ça, donc c'est, on rembobine, c'est un an avant mon départ.
Et tu t'es rendu compte de ça au moment où ta période d'essai s'est finie?
Je m'en suis rendu compte bien après.
Ok.
Bien après. Parce qu'à l'époque, au niveau perso, ma vie était assez compliquée avec mon compagnon. On venait de changer de ville, on était branle-ballée entre différents appartements, enfin bref. En fait, au niveau perso, c'était compliqué, et lui, il s'est gravement blessé quand même, en sport. Et ce qui fait que, en gros, il y avait tout qui était un petit peu bancal, et j'ai analysé bien longtemps après que psychologiquement, du coup, à ce moment-là, je me suis blindée, je me suis dit, le taf, il faut que ça marche. Il faut que là, le taf, ça fonctionne. Et je m'en suis pas du tout rendu compte au moment même, mais c'est venu quand même bien après. Et c'est divertissant, en fait, quand tu fais ce constat. Moi, quand j'ai fait ce constat il y a quelques mois, ben, je m'effondre, parce que je me dis, du coup, ça fait un an, en fait, que tu t'affliges le fait de travailler dans une entreprise où t'es pas bien, en fait. Parce que par ailleurs, t'avais besoin de sécuriser des choses, mais. Enfin, ça, c'était un constat hyper, hyper dur à faire. Du coup, ça va mieux. Quand j'en parlais.
Mais tu t'es rendu compte, du coup, à quel moment, genre. Parce que là, t'en parles comme si t'avais vraiment eu ton déclic. Je me suis rendu compte qu'avec mon manager, je me sentais pas bien. Genre, à quel moment tu t'es dit, en fait, je crois que. Je me blinde, mais il faut que l'état, ça marche.
À quel moment je me suis rendu compte que je m'étais dit ça?
Ouais.
Il y a 6 mois de ça.
Ah oui, donc c'était quand même super récent. Enfin, super récent.
Enfin, le côté. Quand, d'arriver à vraiment le formaliser de cette façon-là, c'est très récent. Et le côté où je me suis quand même rendu compte qu'avec mon ancien manager, du coup, ça se passait pas bien, c'est quand j'en ai eu un nouveau.
Ok.
Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que. C'est un truc de fou, cette boîte. Après, on laissera quand même la parole à Kétia, parce que moi, je peux en avoir pour vraiment des cours, donc je parle. Mais, en fait, à l'été 2019, je suis au bout du rouleau. Genre, je suis vraiment au bout, je fais toutes mes journées en pleurs, dès que je sors du bureau de mon manager, je suis en larmes, parce que chacun de nos échanges me tente beaucoup. Et là, je me dis, mais c'est pas possible, là, c'est pas normal, ça va pas, je démissionne, quoi. Mais vraiment, là, c'était coup de tête, genre, je me sauve. Je me sauve, mais au sens, je me sauvegarde, quoi. Et là, on me retient, en interne, on m'explique qu'il va se passer des choses, et j'apprends qu'il est sur le départ. Et j'apprends qu'il démissionne. Donc là, retournement de situation, je me dis, merde. Moi, j'avais prévu de dire, je m'en vais. Et en fait, on me dit, bah non, il s'en va, donc Angéline, t'es un bon élément, on est content de t'avoir, tiens le coup, bientôt il sera parti. Je me dis, c'est quand même pas normal.
On dit ça, ouais.
Mais moi, je me dis, bon, j'y réfléchis longuement, je me dis, peut-être que je peux laisser le temps aux cartes de se rebattre
Mais peut-être que ça va changer.
Peut-être que ça va changer quelque chose. Il y a peut-être une petite réorganisation, un nouveau manager, à voir. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai attendu. Et c'est en ayant un nouveau manager que je me suis rendu compte que vraiment, du coup, avec l'autre, il n'y a pas un gros problème. Parce que pour le coup, avec mon nouveau manager, j'ai développé vraiment une vraie relation de confiance où on arrivait à très bien bosser ensemble, etc. Et là, les mois, c'est cool. Et en fait, je comprends que c'est la boîte qui dysfonctionne complètement.
Et c'était quoi les dysfonctionnements, justement, de la boîte? Parce que je me demande si c'est des choses qu'on retrouve dans plein d'entreprises. Parce que moi, je commence à avoir l'impression que c'est des choses qu'on retrouve partout. Et donc, ça m'intéresserait de savoir qu'est-ce que tu as identifié.
Alors moi, de ce que j'ai identifié... C'est hyper difficile à expliquer parce que avec certains collègues avec qui je m'entendais très bien, avec qui on partageait le même sentiment, on se rendait compte qu'en fait on n'avait aucun fondement sur lequel on pouvait s'appuyer. On n'avait pas de process, par exemple. Tu dis à un moment, tu fais face à des incompétences des gens. Enfin, je veux dire, d'une façon, il y a quand même des gens qui sont à des places, ils devraient pas être là, ils sont incompétents, bah ils devraient être, ça déjà numéro un. Face à ces gens incompétents, tu te dis, des fois, il y a des process qui vont te permettre de venir remettre les choses à leur place et de objectivement dire, ça, ça convient, ça, c'est compliqué, ça, c'est ok. Il n'y a pas de process. Quand il n'y a pas de process, tu te dis, il y a une direction qui va s'affirmer et qui va dire, écoutez, les gars, le cap, c'est ça, qui va venir un peu cadrer les choses, donner, pas être autoritaire, mais enfin, au moins, donner un peu de rigueur et de vision dans ce marasme général. Et là encore, la direction n'est pas au rendez-vous. Il y a des gens qui font des fautes professionnelles, des trucs, enfin, et personne ne leur dit rien. Il y a des gens qui manquent de respect dans la façon dont, je sais pas moi, on dit qu'on est bienveillant, qu'on fait attention les uns aux autres, blablabla. T'as des gens, il y a quelqu'un qui m'a pourri au bout de 3 mois en open space devant tout le monde. C'est pas normal. Alors que j'arrivais depuis 3 mois. Donc, et là, l'indirection encore ne dit rien. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de capitaine dans le navire, en fait. Et tout ça cumulé fait qu'à un moment, t'es tout seul, en fait, à chérir tes trucs dans ton coin. Tu fais des choses, on te dit bah oui, mais non, en fait, tout le monde donne son avis. Personne n'est capable de venir remettre un focus sur ce qui est en train de se passer. Chacun bosse dans son coin un peu comme il peut, mais tu fais un pas en avant, 3 pas en arrière. Et le marasme continue, quoi.
C'est cool.
Mais un truc de ouf. Moi, j'ai jamais vu ça. Je veux dire, j'ai bossé en start-up, j'ai bossé dans des stages précédemment. Bah, c'était le premier CDI. Et
la première de la vie de la vie.
Mais dans mes stages précédents, je sais pas, j'avais vu quelques petits dysfonctionnements en start-up, quelques petits dysfonctionnements en grand groupe. Mais là, c'était le chaos, quoi. Là, c'est le chaos. Il n'y a rien sur lequel tu peux te t'appuyer, exactement. Et pire, les managers, en fait, t'as quelques managers qui comptent sur toi, mais vis-à-vis du reste du collectif, ils peuvent pas, ils essayent de garder une posture en disant, non, tu sais, Angéline, toi, tu fais vraiment du bon taf, les autres, j'entends, enfin, tu es le manager qui m'ont dit, les autres, c'est des branleurs.
Mais toi,
t'es super. Mais par contre, je peux pas le dire au reste. Du coup, continue bien ta fille dans ton coin, mais au niveau du collectif, je ne peux pas te mettre en avant.
Je pense que c'est une technique managériale qui est souvent employée.
Ah ouais?
Enfin, moi, mon manager, il fonctionne que comme ça. Alors, il le fait pas de manière très maligne, très délicate. Mais à chaque fois qu'il parle, c'est s'il veut dire un truc de bien, c'est en descendant les autres. S'il veut dire un truc de mal, c'est en disant les autres font mieux que toi. Je n'ai pas de problème avec les autres, j'ai que des problèmes avec toi.
Et
je pense que c'est une stratégie. Et c'est pas le premier manager que je vois qui fait ça. Et je pense que c'est une tactique assez classique d'isoler une partie, un mouton du troupeau, en fait.
Tu vas t'aligner sur les autres finalement. Et pas...
Bah, ou alors, voilà que. Plutôt, tu vois, quand même, moi, des fois, il me dit, oui, tu sais, toi, tu fais très bien les choses, un peu comme ce que tu disais. Tu fais très bien les choses, et par contre, telle personne a posé problème, tu sais.
Qu'est-ce que tu fais avec ça?
Il n'y a pas de lien entre le fait que je fasse bien les choses et que les personnes posent problème. Tu vois avec la personne, tu vois pas ça avec moi. Mais je pense que c'est pour glorifier, tu vois. Parce qu'on est quand même... Le but, c'est ton être à toi, que tu sois mieux que les autres, enfin, c'est quelque chose qui est assez valorisé quand même socialement. Et donc je pense que c'est une stratégie pour... alors moi qui fonctionne pas du tout avec moi, parce que moi j'ai un esprit très d'équipe, enfin qui est très très fort. Du coup, dès qu'il y a quelqu'un qui essaye d'attaquer mon équipe ou de critiquer des gens de mon équipe, bah, ça me fait un peu l'effet inverse.
Okay.
Bon, ça, il l'a toujours pas compris, mon manager. Mais en tout cas, ça me parle ce que tu dis, parce que j'ai l'impression que c'est un truc, moi, que j'ai beaucoup retrouvé dans différentes sociétés, en fait.
D'accord.
Il y a des gens qui fonctionnent comme ça.
Ah.
Bon, j'ai jamais été manager, je sais pas si on leur apprend ça.
Non, non, mais... en vrai, on apprend pas ça en école, mais... enfin, de ce que tu dis...
On apprend pas être manager en école, ouais, non, c'est déjà de base.
Ouais.
Des bons managers, j'en ai pas vu beaucoup.
Ah oui, ouais, c'est rare.
J'ai plus vu des gens, alors oui, dans leur taf en termes techniques, ils sont géniaux et ils sont très brillants, mais en termes humains, c'est zéro. Enfin, vraiment, je pense qu'ils se rendent même pas compte. Déjà, je pense que déjà manager, c'est dur. Je vais jamais le remettre en question. Surtout quand t'as pas les outils et qu'en plus t'as pas la curiosité d'aller de trouver des outils pour comprendre comment l'humain fonctionne et d'accepter que tous les humains ne fonctionnent pas de la même manière, ne sont pas motivés de la même manière, ne répondent pas à certaines tactiques, comme tu dis, managériales de la même manière. Et surtout sur un junior, ils ne se rendent pas compte de l'effet que ça peut faire en début de carrière d'entendre certaines choses.
Ouais.
Déjà, je pense que tu as une nature ou pas d'être empathique envers les gens et de vouloir un minimum s'intéresser. Mais il y en a, ils n'ont pas du tout les outils. Enfin,
oui, et puis ça s'apprend.
Ouais.
Enfin, ça s'apprend d'être manager.
Oui, tout à fait.
Souvent, c'est considéré comme une promotion ou la suite de ta carrière. Ou voilà, comme dans tout, on a besoin de se classer les uns par rapport aux autres. Et donc, les gens cherchent une évolution de manager. Mais il y a des gens qui ne sont pas faits pour ça. Et je pense qu'ils ne prennent même pas de plaisir à l'être. Parce que, bah, comme tu disais, des fois, ils n'ont pas un contact humain qui est très fort. Enfin, ce serait mieux que ces personnes-là restent... technique et que enfin et voilà, ce soit pas considéré comme un échec de rester à un poste et de devenir expert. Alors, moi je parle d'expert technique parce que du coup, souvent sur les postes d'ingé c'est plus ça l'évolution, mais même d'expert dans son domaine, expert métier.
Oui, c'est ça. Mais souvent en fait le manager c'est parce que c'est un très bon opérationnel, voilà, qu'on prône, comme tu disais.
On l'accompagne pas en termes de formation à côté. Qu'est-ce que c'est être un manager? Je pense qu'il y en a qui aussi veulent se dire manager parce que bah, nos jours ça fait plaisir
Ça fait chic.
Ça fait chouette.
Non, et puis il y a le salaire qui va aussi derrière.
Oui, tout à fait aussi.
Je pense que si c'était payé le même salaire que les opérationnels qui dirigent, il y aurait moins de gens qui voudraient devenir manager. Je me disais ça en fait hier parce que je réfléchissais aux différents soucis que j'ai pu avoir avec le management et je me disais en vrai ce serait une solution, et ensuite je me disais mais tu retombes vite sur une idéologie communiste où tu fais tout le monde pareil en fait. Ça a déjà été éprouvé, mais il y a quelque chose à faire quand même.
Et si tu veux raconter à chaque fois comment les gens réagissent un peu
alors moi il y a peut-être quelque chose qui est un peu spécial, c'est que je suis sur un métier qui recrute beaucoup et où c'est facile de trouver un emploi.
C'est quoi ce métier ?
Je suis data scientist.
D'accord.
Et j'ai eu la chance de commencer mes études. Alors moi, j'ai fait une école d'ingé en statistique. Et à l'époque, quand je l'ai commencé, c'était pas du tout à la mode. On parlait pas du tout de ça. Le terme data scientist existait à peine. Et quand je disais aux gens dans les covoites, oui, moi, je suis statisticienne, les gens arrêtaient de me parler. Ça a l'air chiant. Quand je dis aux gens, je suis data scientist, les gens ils font ah ouais, trop cool, le métier le plus sexy. C'est toujours un peu comme statisticien, hein. T'as juste plus d'informatique, ce qui aussi n'était pas cool à une époque, mais voilà.
Ah, c'est une question un peu de branding, mais c'est comme les trucs de manager en vrai.
Oui, voilà, enfin, c'est juste que là, c'est devenu quelque chose qui a été à la mode. Mais il y a plein de gens qui faisaient ce métier depuis assez longtemps, qui avaient un autre terme et c'était d'autres technos derrière, mais. À l'époque, c'était pas du tout sexy, quoi. Mais donc, bref, en tout cas, j'ai la chance d'être sur un métier qui recrute facilement. Et donc, moi, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai commencé à travailler, j'ai fait mon stage. Pendant mon stage, ça se passait très bien. J'étais dans une start-up où j'ai pu toucher un peu à tout. J'avais la chance d'avoir un management qui était pas trop fort sur moi. On me laissait un peu, on me faisait confiance. Donc, j'étais vraiment très bien. Et ensuite, progressivement, en fait, quand je suis partie de mon stage, ensuite, ils m'ont proposé un CDI. J'ai juste fait 15 jours de vacances en partant. Le chef de l'entreprise m'a dit profite bien de tes vacances parce que après, je crois que je t'en avais parlé à Pauline, ça va être c'est parti pour 42 ans. Et là, je me suis dit ça va être possible en fait. Enfin, non pas que mon travail ne me plaise pas, mais je veux pas que ma vie ce soit 42 ans comme ça et qu'après je sois vieille et que j'ai juste gâché ma vie à faire ça tout le temps, 5 jours sur 7 pendant 40 heures par semaine dans le meilleur des cas. Et donc je suis revenue et j'ai eu un peu de mal. Comme j'étais plus en stage, il fallait que je sois rentable, donc je devais plus accepter les consignes, faire des choses qui étaient un peu contraires à mon éthique statistique aussi. Enfin, rien de très grave, mais qui n'était pas aligné avec mes principes. Et ensuite, pour des raisons personnelles, je travaillais à Bordeaux à l'époque, j'ai voulu partir à Paris. Donc j'ai trouvé un poste dans un grand parc d'attractions. Comme data scientist aussi, et donc j'ai posé ma première démission, j'étais en pleurs, pour moi c'était un truc énorme, enfin c'est toujours un truc énorme, hein, mais vraiment, j'avais l'impression de trahir mon entreprise un peu.
On sent que tu t'y habituais quand t'as dit ma première démission, la première fois c'était plus dur après, vraiment.
D'année en année, je prenais le template, mais non, c'était quand même quelque chose d'assez fort. Pour moi, surtout que je partais après 6 mois de CDI, donc finalement après assez peu de temps, mais après un an dans l'entreprise quand même. Et l'autre entreprise, de toute façon, il m'avait débauché, donc il n'y avait pas de souci sur. J'étais restée qu'un an dans ma première boîte. En plus, il y avait cette question de la mobilité géographique, donc dans ma tête, je me disais ça va. Mon deuxième job, il s'est très mal passé parce qu'on s'était pas très bien compris sur ce qui était le métier de data scientist, qui était quelque chose de nouveau et donc pas très bien défini. Et donc, je me suis retrouvée à faire un métier qui était pas le mien, qui m'intéressait pas spécialement, où j'étais pas spécialement bonne non plus, dans une entreprise qui me plaisait pas trop. Et donc là, c'était vraiment instinctif où je me suis dit, dès le premier jour, en fait, j'y suis allée, je me disais, j'ai pas envie d'y aller. Et ça pendant 2 mois. Et en fait, se dire ça, pendant 2 mois, ça paraît super long. Du coup, j'ai mis fin à ma période d'essai, pareil. En pleurs, enfin, moi, je suis quelqu'un de très émotif, donc en pleurs, l'impression d'avoir trahi, etc. Et je me suis retrouvée pour la première fois en pause, ce qui n'était pas forcément facile, à remettre en cause limite mon orientation professionnelle, à hésiter à faire d'autres études. Et finalement, j'ai vu un poste pour un site de rencontre, comme data scientist toujours, où je connaissais quelqu'un là-bas, que j'appréciais beaucoup. Je lui ai demandé comment était la boîte. Et là, c'était le coup de cœur. Enfin, moi, j'ai rencontré mon conjoint sur un site de rencontre. J'étais trop contente de me dire que j'allais aider des gens à faire des rencontres aussi.
C'est pour ça que t'avais l'air à fond quand tu m'as parlé du site de rencontre. Tu disais, j'avais l'impression de créer des
relations. Ah oui. Bah voilà, c'était d'autant plus important pour moi. Moi, je me disais, si je vais là-bas, je vais vraiment aider des gens à se rencontrer. Tous les matins, je vais me dire, j'aide des gens à se rencontrer. Je vais peut-être aider à faire des bébés. Ça va être génial. Enfin, vraiment, moi, dans ma tête, c'était la folie, quoi. Et puis même, l'équipe était sympa. Enfin, ouais, voilà. Pour moi, c'était un truc
avec
de
des chiffres.
Parce qu'en plus, je créais les algorithmes qui présentaient une personne à une autre personne.
Ouais.
Donc, je me disais... Enfin, même, je pense que j'aurais eu n'importe quelle place dans l'entreprise, j'aurais eu cette sensation-là. Mais là, j'étais d'autant plus contente. Ça, c'était vraiment ma boîte rêvée.
Ouais.
Quand j'ai passé les entretiens, voilà, c'était ma boîte sœur. Et je pense que même maintenant encore, tu vois, s'il y a une boîte qui doit être ma boîte sœur, c'est celle-là. Ouais. Et quand t'as dit tout à l'heure, pendant les entretiens, je voulais vraiment ce poste. Je me disais, j'étais stressée à l'idée de l'avoir ou pas. Moi, c'est la seule fois où ça m'a fait ça. Je me disais, je veux vraiment ce poste. Après tous les entretiens, je leur écrivais des mails en disant, oui, j'ai beaucoup apprécié. Regardez tout ce que j'ai retenu. Enfin, j'étais vraiment beaucoup trop à fond, quoi. Et ils m'ont donné ma chance parce que j'étais un peu junior pour le poste, et ce malgré le fait que j'avais changé 2 fois de boîte avant et que j'avais fait aussi une grosse erreur lors des entretiens, c'est de pas leur dire que j'avais fait que 2 mois dans ma boîte précédente. En gros, j'avais enlevé la ligne de mon CV et je leur en ai pas parlé.
Ils l'ont appris
et en fait c'était très bête de ma part. Ça m'a appris ensuite pour la suite, la ligne, je l'ai remise et j'en parle assez naturellement, que c'est important pour les entreprises de savoir pourquoi t'es parti d'un poste. Alors, est-ce que c'était toi? Est-ce que c'était l'entreprise? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Aussi parce que, moi, la manière dont je vois les entretiens, c'est pas juste l'entreprise qui te sélectionne, c'est aussi voir si tu vas correspondre. Mmh. Et si je dis à une entreprise, ben voilà, moi par exemple, j'ai du mal avec le sexisme. C'est peut-être un truc qui paraît évident pour tout le monde, mais si je suis dans un environnement qui est sexiste, ça va poser problème, clairement. Mm-hmm. Bah, peut-être que la RH, elle sait que le manager, il a déjà posé des problèmes là-dessus, et elle va se dire que ça colle pas. Enfin, il y a plein de choses comme ça, ou alors, même quand en face de toi, t'as ton futur manager, tu dis, bah, moi, j'ai du mal avec l'autorité juste où je suis une simple exécutante, c'est-à-dire on me donne une tâche, je la fais sans connaître le contexte, sans rencontrer les équipes, etc. Bah, si la personne en face, ça fonctionne comme ça, elle sait qu'elle va pas s'entendre avec moi. Enfin, c'est pour ça que c'est important de tout... Enfin, moi, maintenant, j'assume tout, c'est parce que je me dis... Ouais, moi, je trouve que c'est vraiment un speed dating professionnel, parce qu'en fait, ça sert à rien, et puis je l'ai vu, parce que j'ai quand même pas mal démissionné, que s'il y a quelque chose qui colle pas, eh ben, il faut pas le faire. Enfin, comme tu disais, tu te retrouves dans des situations où t'es pas bien au quotidien, parce que le travail, ça prend quand même beaucoup de temps. Et bah, c'est pas normal, comme situation. Enfin, c'est valable ni pour l'entreprise ni pour toi, parce que toi, t'es pas au comble de tes capacités, et puis t'es malheureux au quotidien, donc autant pas se lancer directement dans ça. Après, je me permets de dire ça aussi parce que je suis sur ce métier où je sais qu'il y en a, il y a d'autres postes à côté. Donc, je pense que si c'était pas le cas, j'aurais un rapport un peu plus stressé à. Enfin, je ferais beaucoup de concessions.
Est-ce qu'il y a quelqu'un déjà qui t'a fait la remarque du fait que ça pouvait refléter un manque de stabilité?
Ah, tout le temps. Enfin, déjà à l'extérieur, enfin, même pas dans l'entreprise. Moi, il y avait des profs dans mon école, parce que je revenais pour des conférences, des choses comme ça. Des profs qui me disaient, bon alors, vous êtes dans quelle boîte maintenant? Même mes amis, à chaque fois, ils me disent, mais maintenant, tu travailles à... Parce que il y avait un moment où j'ai beaucoup changé, du coup, ils suivaient plus. Et ensuite, au sein des entreprises, oui. Enfin, même, tu vois, mon premier poste, quand je suis partie, ensuite, j'ai appris par des collègues que le grand chef avait dit, de toute façon, Kétia, on savait qu'elle partirait tôt parce qu'elle est pas stable. Bah, écoute, c'est comme ça. Enfin, si je suis bien dans une entreprise, j'y reste. Et si je suis pas bien, je pars. Et après, il y a plein de boîtes aussi qui fonctionnent comme ça. On en avait parlé un peu tout à l'heure, mais il y a des boîtes aussi qui fonctionnent au turnover. Moi, je vois dans les boîtes que j'ai faites, qui sont majoritairement des boîtes web, il y a plein de gens, je me souviens pour ce site de rencontre en particulier, il y avait une espèce de séminaire annuel, et dans la salle, le directeur général a dit qui n'était pas là l'an dernier pour le séminaire. Et il y a 3/4 de la salle qui a levé le bras. Mmh. Sachant que la boîte n'était pas en croissance. Donc c'est juste qu'il y avait un turnover tel que, enfin, c'est comme ça. Donc, moi, c'est pas quelque chose, peut-être que ça me posera problème à un moment d'avoir trop changé. Enfin, comme maintenant, je veux carrément changer de métier, j'espère que ça me posera pas de problème. Mais après, moi, en fait, dans certaines entreprises, ils voyaient ça plutôt comme un truc qui était assez positif parce qu'en 5 ans, enfin, même en 4 ans, j'ai vu plein de domaines différents. J'ai eu l'occasion de faire plein de choses qui étaient différentes, un peu comme dans le conseil, en fait. Tu vois, souvent, on dit, le conseil, ça te permet de voir des boîtes différentes, de gagner en expérience, etc. Alors,
je crois qu'on n'est pas d'accord de
ça. Moi, en école, c'est comme ça qu'on...
On est tous attirés par... Oui, c'est
souvent, c'est comme ça qu'on te vend le conseil.
Oui, oui.
Et j'ai un peu fait ce qu'on est censé faire dans le conseil, mais... Mais pour ma pomme, quoi. Et du coup, après, souvent, quand je détaille mes expériences et que je dis ce que j'ai fait... Bon, évidemment, je suis restée 2 mois, par exemple, dans une entreprise.
Oui.
Je peux pas leur vendre grand-chose. Mais j'ai bossé aussi pour un groupe de luxe pendant 8 mois, et pendant 8 mois j'ai quand même fait plein de trucs différents, parce qu'en plus j'avais pas une posture managériale, mais je gérais plus des projets, ce que je fais pas dans mon job habituellement. Enfin, j'ai fait plein de trucs différents, donc en fait quand j'arrive en entretien, j'ai quand même beaucoup de choses à raconter. J'ai bossé pour des domaines différents, ce qui montre quand même que je suis adaptable, et je ne suis pas partie fâchée de la plupart de mes entreprises, donc je peux avoir des références aussi. Enfin, on sait que ça m'est arrivé, en fait. Comme j'ai beaucoup bougé, ça m'est arrivé qu'en entretien, on me dise « Donnez-moi un contact pour chacune des expériences, histoire de vérifier que vous ne mentez pas. »
D'accord.
Donc là, ils les appellent, on leur explique que je suis effectivement partie, le travail que je faisais, ce qui valait, et ensuite, c'est à eux de juger. Ouais. Mais moi, c'est pas un truc qui, pour l'instant, m'a vraiment posé extrêmement problème, et je pense que si ça posait problème, c'était dans une boîte qui serait pas faite pour moi. Parce que c'est évident que là, si une boîte me dit on recherche quelqu'un parce que c'est un poste, c'est un projet qui va durer 10 ans. Moi, je suis genre, non.
C'est pas des endroits où toi, tu vas postuler non plus.
C'est pas des endroits où je vais postuler non plus, ouais.
C'est un match, enfin, c'est un match.
Ouais, c'est un peu un match. Ouais.
Et après, c'est, je pense, moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir, toi, qu'est-ce qui t'a fait partir, qu'est-ce qui te fait partir les fois où tu disais que c'est pas, ça te convient plus. Parce que, au final, je trouve qu'à partir du moment où, en fait, t'es aligné avec la décision qui te mène à, enfin, comment dire, avec ce qui t'a mené à prendre cette décision, après, c'est un peu comme tout, en fait, c'est bien un argumentaire à travailler ou avec lequel être à l'aise, en fait, trouver les bons mots pour donner confiance, mais, finalement, personne ne pourra jamais te reprocher des choix qui sont les tiens et avec lesquels tu es en phase. Et à partir, en fait, la seule chose, je pense, c'est être en phase avec voilà, ces décisions qu'on prend là et après savoir en parler de façon plus fluide une fois voilà, l'émotion passée, les choses un peu plus voilà, moins objectives, on va dire, passées. Mais après, je pense que ouais, c'est juste ça. En fait, c'est juste ça, apprendre à en parler. Mais...
Oui, et puis il y a des choses à apprendre aussi. Fin... D'une certaine manière, on peut voir une démission comme une forme d'échec, parce que, en fait, c'est l'échec de ta collaboration avec l'entreprise. Ou alors, c'est comme un couple qui se sépare, je ne sais pas.
Mais du marrant. Coup, moi, je trouve ça que comme t'as... ça. J'aurais plus vu l'idée de se faire virer comme un échec, mais virer vraiment parce que ton papa, des fois, comme tu dis tout à l'heure, comme tu as donné l'exemple de se faire virer, enfin, de se faire démissionner.
Oui.
Mais plutôt l'idée de vraiment quelqu'un qui vient te dire bon, bah là. Tu ne fais pas le taf du tout, c'est pas possible. Mais pour moi, la décision, c'est plutôt un acte courageux, je trouve, parce que c'est pas quelque chose que tu fais tous les jours. Quand même, t'aurais pu te dire bon, bah là, je réessaye, j'attends 2 mois, peut-être c'est un truc de passage. Et c'est pour que vraiment, à chaque fois, t'aies acté ta décision, je trouve ça plutôt courageux parce que, comme tu dis, t'as le plein de gens autour de toi.
Après, c'est aussi, tu vois, moi je me vois pas forcément comme quelqu'un de très persévérant. Du coup.
Ah,
les gens qui restent, par exemple dans mon entreprise actuelle, j'ai un collègue qui est là depuis plus longtemps que moi, qui se heurte au même souci que moi, et ce collègue-là, je l'admire parce que bon, déjà il est très diplomate, il prend les choses avec beaucoup de recul, c'est quelqu'un de très persévérant et de très calme. Alors que moi, je vais. Des fois, il y a des moments où je vais vraiment me dire ouais. Ça suffit. Enfin, j'essaye pas de voir, j'essaye pas justement. Si on dit si, attends un peu, il va se passer quelque chose. Je leur dis non, j'attends pas. Je...
J'ai l'habitude de décider.
Je pars en fait.
Ah, c'est ouf parce qu'on en a parlé il y a pas longtemps justement avec Angélie quand tu me disais que tu m'avais raconté ton burn-out. Et c'était vraiment le terme qui m'était venu à l'esprit. Toutes les personnes qui me parlent du, enfin, bah, des moments où ça a pété, mais plus. Des petits moments où ça allait pas et où, où les gens se sont dit « Ah, c'est peut-être moi, je vais attendre. » Et c'était vraiment le terme, la persévérance qui, à la fois, est une énorme qualité, mais qui peut aussi, du coup, se retourner vers toi. Et du coup, c'est pour ça que j'ai... que ça m'a fait penser à toi.
C'est intéressant, du coup,
Mais je pense que c'est... En fait, la différence, c'est peut-être... Alors, je suis désolée, je fais plein de parallèles avec des couples, mais...
mais tu vois, on a senti que t'aimais bien ça.
Non, mais tu sais, des fois, dans un couple, il y a des choses qui vont pas.
Ouais.
Et donc, où t'arrives à surmonter la crise, et dans ce cas-là, c'est une forme de persévérance, parce que t'as pas juste lâché l'affaire, et à deux, t'as essayé de construire les choses pour que ça aille mieux, ou bah, tu laisses passer, tu mets un peu de côté, tu dis, mais non, ça va aller mieux, on s'aime bien quand même, au début, c'était bien. Et en fait, ça, c'est très néfaste, parce qu'au bout d'un moment, ça pète. Et en fait, j'ai l'impression que l'entreprise, c'est un peu pareil. Au début, c'est bien. C'est souvent toujours bien au début. Et puis progressivement, tu commences à avoir cette idée de « ça va pas, tu prends des choses sur toi ». Et pour moi, la persévérance, ce serait de réussir à résoudre ces conflits avec l'entreprise. De trouver un accord ou une nouvelle forme d'organisation pour que tout le monde soit bien. Et ça, c'est ce que je regrette de ne pas avoir fait dans certaines de mes expériences.
Toi, est-ce que t'es parti voir une RH ou ton manager pour en parler, essayer de résoudre ou c'est vraiment dans ton coin t'as pris la décision et du jour au lendemain tu disais que tu partais?
Alors au début, la première fois que je suis partie, c'est de toute façon j'allais partir parce que je devais aller à Paris, donc j'ai pas cherché spécialement à résoudre des choses. Il y avait des problèmes, mais je me suis dit c'est pas mon souci, moi je veux juste partir sans me fâcher avec les gens, donc j'ai pas essayé de résoudre des trucs. Et puis il y avait pas de gros problèmes dans cette boîte là pour moi. Et par contre, quand je suis partie de ma boîte sœur, là, ça me faisait de la peine de la quitter parce que, pour le coup, j'y étais attachée, ça se passait bien. Mais j'avais deux problèmes. J'avais un problème avec mon N+2, qui était un gros... Enfin, beaucoup de mon équipe avait un problème avec ce mec et finalement, il a été viré de l'entreprise. Mais voilà, il a fait partir une grosse partie de l'équipe. Donc, je savais qu'il n'y avait pas grand-chose à faire là-dessus. J'en avais déjà parlé à mon manager qui m'avait dit « Bah oui, mais... malheureusement, c'est comme ça, il faut composer avec. » Et j'avais un problème au niveau de mon salaire. C'est-à-dire que par rapport à mes collègues et par rapport à ce que, à mon niveau d'études, j'étais pas assez payée parce que j'avais mal négocié à la base. Mais voilà, enfin, moi, je voulais qu'on réévalue mon salaire parce qu'on me proposait limite 20% de plus ailleurs, quoi. Et en fait, on m'a dit non parce que tu n'es pas considérée comme une personne clé dans l'entreprise. Et donc bah là je suis partie. Donc c'était justement le mon N+2 qui a dit ça, mais il disait mais de toute façon dans l'équipe personne n'est considéré comme des personnes clés. Donc là je me suis dit bon, on s'en va, ça suffit. Et après donc j'ai intégré une boîte où personne me voyait là-bas parce que ça correspondait pas du tout. C'était une boîte de luxe et je suis pas quelqu'un de très luxe. Et tout le monde a été très étonné que j'aille là-bas. Et c'est vrai que je collais pas trop à l'atmosphère de la boîte. Et je comprenais pas trop ce qu'on attendait de moi. Il y avait plein de choses où j'avais du mal. Mais là, je m'étais dit, je vais essayer que les problèmes se résolvent. Et donc, j'ai pas mal discuté avec mon manager. Je lui ai fait part de plusieurs soucis que j'avais remarqués. Du fait que je comprenais pas trop, enfin j'avais du mal dans la collaboration avec lui, je trouvais pas ça très clair, enfin on s'entendait bien, mais en fait dans mon travail ça matchait pas très bien. Et j'ai essayé d'améliorer les choses, mais le fait est que ça marchait pas, enfin je me sentais pas à ma place et ce que je faisais au quotidien ça fonctionnait pas, quoi. Donc je suis partie, je pense que j'aurais pu plus essayer de résoudre les problèmes, mais j'avoue que j'ai pas beaucoup cherché. Et là, dans ma boîte actuelle, il y a des problèmes aussi, comme d'habitude. Parce que je pense que, mais dans toute situation, en fait, ouais, il y a forcément des problèmes.
Toujours.
Oui.
Et
l'entreprise n'est parfaite.
Oui, voilà, aucune entreprise n'est parfaite. Et c'est vrai que là, au fur et à mesure, j'essaye toujours de plus dialoguer pour résoudre les soucis. Ouais. Mais après, le fait est, tu vois, quand tu me disais, est-ce que t'es allé voir une RH, moi, j'ai des soucis, voilà, avec, avec ma hiérarchie, il y a des fois où les RH ne peuvent rien faire.
Ouais.
Et généralement, les RH ne peuvent rien faire. Les délégués du personnel ne peuvent rien faire. Okay. Parce que tout le monde est au courant de la situation. Et personne ne fait rien. Donc en fait, là, je prends juste mon mal en patience. Ouais. Et des fois, ça sert aussi à rien de trop s'investir et de trop essayer de résoudre des conflits quand déjà la relation elle est vouée à un échec, quoi. Comme tu dis, il faut savoir se préserver, donc, ou en démissionnant, ou en réussissant à prendre du recul avec le travail.
Et c'est pas du tout négatif.
Ouais. Ça commence bien.
J'allais dire, est-ce que dans tout ça, est-ce qu'à un moment tu t'es remise en question pour dire c'est vraiment moi qui ne suis pas adaptée à l'entreprise moderne telle qu'elle est en France, essentiellement, ou voilà, où tu t'es dit vraiment à chaque fois, bah, c'est la faute de ce manager, c'est celui-là.
Oui. Non, mais c'est une bonne question. Alors, oui, je me suis complètement remise en question parce qu'en fait, au bout d'un moment, c'est vrai que je me heurte face aux mêmes difficultés dans toutes les entreprises. Donc, enfin, au même type de difficultés. Même quand tu parlais de ton expérience tout à l'heure, il y a des choses que je reconnais. Tu vois, le fait qu'il n'y ait pas de process, qu'il y ait des gens pas forcément compétents, mais qu'ils soient à des places où ils prennent des décisions, et du coup tu subis, enfin. Donc en fait, c'est peut-être, je devrais peut-être plus me remettre en question, mais moi j'ai un peu remis en question l'entreprise moderne, et je me suis dit peut-être que le salariat c'est pas fait pour moi en fait. Donc c'est un peu le questionnement que j'ai actuellement.
D'accord.
Et du coup j'ai pas forcément très envie de me réinvestir dans une entreprise, parce que je me dis ça va encore être la même chose, ouais, que les 5 dernières fois. Enfin, tu vois, ouais, où tu... je sais pas si toi, ça fait ça où tu dis, t'as... est-ce que toi, t'aurais envie de de re-rentrer dans une entreprise ou est-ce que tu n'aurais pas peur de retomber sur les mêmes choses un peu?
C'est ce que dit un peu Einstein sur la folie, que la folie, oui, la vraie folie, c'est de refaire les mêmes choses en espérant que
ça ait des résultats différents.
Alors que non.
Et en fait, c'est complètement ça.
Ça fait tout à fait penser à ça, ce que tu dis. Ouais.
Moi, par rapport à ce qu'elle dit, en fait, il y a plein de choses sur lesquelles j'ai envie de rebondir parce que. Non, tu vois, pareil. Le côté.
On sent que t'as la liste.
Commençons là par la fin. Moi, effectivement, c'est un peu le. J'en arrive en fait au même. Un peu au même questionnement parce que. Pourquoi ? Moi, c'est ma deuxième expérience vraiment difficile. En gros, j'ai eu un premier stage, un de mes stages qui s'est pas très bien passé aussi. Là, surtout par rapport en fait à la. Pardon, excusez-moi, je pense à trop de trucs, du coup, j'ai le temps de mes idées en ordre. C'est hyper stimulant en fait, de tout ce qui résonne. Donc j'ai eu une première expérience en fait qui a été difficile, c'était un stage parce que la dirigeante de l'entreprise faisait un peu un management par la peur, quoi. Elle rentrait un tronc dans ton bureau en disant c'est la merde, et elle ressort, tu sais pas ce que tu peux modifier,
t'es juste tremblant, mais enfin c'est ça.
compliqué plus tard, donc ça m'a mis un gros coup à l'époque. J'ai mis du temps à m'en remettre, j'ai refait un stage derrière qui s'est pour le coup extrêmement bien passé, où j'ai eu la chance d'avoir une excellente manager chez Panzani, donc là je vais la citer parce que vraiment pour le coup c'était super, et ça m'avait bien mise d'aplomb etc. avant du coup le premier job, et là je premier job et je me casse les dents encore, et donc là je finis par me questionner. Donc moi j'ai fait je suis dans un travail en ce moment de comprendre qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui ne m'appartient pas, qu'est-ce qui dépendait de moi, qu'est-ce qui dépendait pas de moi, pour arriver à faire la part des choses entre les défauts en fait de l'entreprise, et à un moment donné voilà cette remise en question personnelle de qu'est-ce qui peut dysfonctionner chez moi qui fait que je me mets en difficulté. Et ça il y a vraiment c'est un gros travail que je fais et qui amène des vraies réponses, donc c'est hyper intéressant, surtout pour moi pour la suite. Mais du coup, à un moment, je me dis, ok, Angèle, sois honnête avec toi-même deux secondes, est-ce que du coup, tout ce fonctionnement, ce monde de l'entreprise, ce monde du salariat, est-ce que c'est fait pour toi ou pas? Est-ce que la prochaine fois, tu as envie de dire à ta peur? Est-ce que j'ai envie de reprendre le risque d'aller me casser les dents? Ben, je suis pas sûre. Aujourd'hui, je me sens mieux parce que j'ai fini mon épuisement professionnel, du coup, en juillet, mais est-ce qu'aujourd'hui, je suis d'attaque pour y retourner, me dire allez on réessaye, qu'est-ce qui changera cette fois-ci en fait, qu'est-ce qui moi j'ai pas encore identifié le paramètre qui ferait que ce coup-ci ça peut marcher.
Quand tu dis épuisement professionnel, c'est vraiment t'arrivais pas à te lever le matin, le vrai burn-out
plus dû, et
ça c'est d'un coup tu au-dessus de l'avenir.
Alors ce que j'expliquais à Apo la dernière fois qu'on s'est vu, c'est moi en fait je me suis vraiment mise en danger, c'est que ce plus dû, il est arrivé plein de fois. J'ai eu plein de signaux comme ça, en fait, où à un moment, le corps, mon sommeil, la gestion de mes émotions venaient me dire que c'était pas ok, en fait, que là, il y avait un problème. Et quand tu remontes à la source, tu comprends qu'il y avait un problème dès le début, que tu n'as pas vu, que tu n'as pas voulu voir, que tu n'as pas capté. Et qui, en fait, quand ça dysfonctionne avec l'entreprise, si tu sens un dysfonctionnement dès le début, ça ne peut que s'amplifier, en fait. Ça peut pas s'arranger. C'est comme ça. Enfin, moi, en tout cas, c'est vraiment la théorie que je me suis fait depuis. À plusieurs reprises, en fait, je me suis dit, je n'y arrive plus. Je n'ai plus de jus. Je suis cramée. J'arrive plus à lever le matin. Ou on finissait une réunion. Je m'effondre en larmes alors que je suis en télétravail chez moi. Enfin, des trucs, pas normaux. Et cette limite, en fait, je l'ai repoussée par la persévérance, par le fait de me dire « Non, Angèle, t'es une battante, tu vas y arriver, ça va aller, accroche-toi, tu peux le faire, rien. » Mais et à un moment où il y a un déclic, moi, ça a été dans mon couple, avec mon compagnon, où là, je me suis dit « Cette fois, ça va trop loin. Cette fois, ça ne m'atteint pas que moi, mais là, ça touche à ma sphère personnelle et un bon couple qui est la chose la plus importante pour moi aujourd'hui dans ma vie. Et là, je pouvais pas laisser passer, en fait. Mais cette limite de je suis épuisée, je l'ai eu plein de fois, en fait. J'ai eu plein de fois, mais c'est juste, là, c'est à l'été, ça a été la fois de trop. Et où, et la chance, en fait, que j'ai eue, c'est que j'avais mon manager, qui, en fait, il avait du mal, lui, au niveau de la gestion du collectif, mais en interpersonnel, il était très, très bon. Donc, moi, j'avais une très bonne relation avec lui, et comme je disais, on bossait bien ensemble. Il connaissait les difficultés avec l'entreprise. Enfin, un nombre de fois, on s'est retrouvés tous les deux, soit à boire des coups, soit à être au bureau à se dire, putain, mais quelle boîte, c'est pas possible, quoi, c'est un truc de fou, comment ça dysfonctionne à ce point-là, etc., etc. Et là, quand je lui dis, en fait, là, Edouard, là, je n'en peux plus, je suis épuisée, lui, qui, du coup, allait ne plus être mon manager, et je devais avoir une nouvelle manager avec laquelle je commençais à travailler depuis quelques mois, puisqu'on nous a mis une réorg sur la gueule en plein Covid, très malin, à distance en plus. Donc j'ai ce changement de manager en train de se faire, mais en fait, j'appelle les deux en leur disant, je n'en peux plus, en fait. Là, je suis épuisée, donc je m'effondre en larmes, devant leur dire, en leur disant ça. Et c'est eux qui m'ont dit, en fait, là, tu vas voir ton médecin, tu fais un arrêt maladie. Tu te préserves vraiment, puisque la nuit, moi, je l'avais bien repoussé. C'est eux qui m'ont dit stop. Et c'est eux qui ont fait tout leur possible avec les RH pour faire arrêter le contrat, en fait. Parce que moi, j'ai réussi à partir avec une convention, avec une rupture conventionnelle.
D'accord.
J'avais besoin de me sécuriser par ailleurs. Donc, j'ai eu beaucoup de chance, en fait, moi, de partir avec cette bienveillance, cette dernière bienveillance-là. Ils m'ont vraiment aidé à partir. Mais je sais plus pourquoi je raconte tout ça. On disait, voilà, est-ce que j'avais senti vraiment un moment précis où. Moi je le vois vraiment comme ça. J'ai vraiment analysé, il y a plein de moments où j'ai voulu repousser la limite, persévérer encore et encore, sans vraiment savoir pourquoi. Si je savais pourquoi. Parce que, encore une fois, côté perso, en fait, j'avais des trucs à sécuriser. J'avais notamment un projet qui me tenait à cœur qui était de jouer au Festival d'Avignon. Cet été, et ça me coûtait beaucoup d'argent, et j'avais besoin de sécuriser, en fait, le côté taf pour être sûr de venir à ce projet. Et en fait, Avignon a été annulé, mon manager se barrait, il y en avait une autre qui arrivait, et mais j'aurais pu refaire la même erreur, lui laisser sa chance. Je veux dire, allez, on essaye. Mais je me suis dit non, et là, en fait, je me suis dit, voilà, il n'y a plus rien qui me retient, en fait. C'est, les gens, je ne peux plus les voir, le taf en soi ne me stimule plus. Le tout faisait que je me suis
dit. Et financièrement, parce que c'est quand même une grosse partie, on va pas se mentir. Comment tu t'abordes, bon, parce que t'étais pas parti avec l'idée d'avoir une rupture conventionnelle, comme tu l'as dit, t'as eu de la chance finalement, ils auraient pu réagir en mode on te vit ou autre. Comment toi, est-ce que avant que tu leur annonces ça et que eux ils te fassent l'annonce de la rupture conventionnelle, comment toi, tu t'étais dit déjà, ok, financièrement, bah, c'est pas grave, mais il faut que je quitte ce job parce que c'est ma santé qui va partir.
Je pense que le contexte a aidé quelque part parce que on était en plein confinement. Du coup, quand j'ai vraiment commencé à me dire, j'ai commencé à me lever nuit tous les jours à me demander, est-ce que je démissionne? Est-ce que pendant le confinement, c'était beaucoup ça?
Mais tous les jours, tu te levais, c'était ta première pensée ou c'était
quasiment. Je veux dire, ça devenait régulièrement, ça devenait même dans les conversations avec mes amis ou compagnons, tu vois, ça devenait. Je voudrais dire que j'ai envie de peut-être partir, comme faut que j'arrête. Donc c'était quand même un truc vraiment qui revenait en rengaine comme ça. Les moments de mieux au taf faisaient que ça s'atténue, et puis mais ça reste la trame de fond qui restait. Donc le bol que j'ai eu, pour répondre à ta question financière, c'est que pendant le confinement, bah en fait on dépensait pas. Donc comme beaucoup de gens, en fait il y a beaucoup d'épargne à ce moment-là qui rentre, et j'ai pu mettre beaucoup d'argent de côté. Et enfin, beaucoup, j'ai pu mettre l'argent de côté, quoi.
Donc, manager paye bien.
et et comment. Et donc déjà voilà, je me suis mis, comme ça je me disais, cette sécurité financière, je me la fais toute seule. Mon compagnon aussi m'avait dit, bon, il s'appelle Serge, je vais dire Serge parce que ça veut dire à chaque fois de dire qu'il appartient pas.
Mon compagnon.
Serge me dit, écoute, si ça finit vraiment par être ta décision, parce que limite c'était un sujet récurrent tous les 2-3 mois concrètement, je me posais la question, est-ce que je pars. Lui m'avait assuré plein de fois, si financièrement il y a besoin de moi, j'assure pour nous deux pendant un temps, il n'y a aucun problème. Donc lui, voilà, on avait la chance d'être deux, hein, j'étais pas toute seule. Et à un moment, en fait, j'ai compris que mon objectif était de partir, quoi qu'il en coûte. Et que le seul risque que j'étais prête à prendre, en fait, c'était de m'en aller. Et il n'y avait plus d'autres risques qui me paraissaient plus importants que celui-là. Et ce qui fait que, ouais, c'est plus ça, donc entre l'épargne, le côté être à deux et limite la sécurité financière finissait par être je me faisais tu vois des scénarios de catastrophe, au pire du pire je quitte Paris, je rentre chez un de mes parents, j'arrête tout et voilà, si je peux plus payer le loyer, si je peux plus payer à bouffer, si je peux plus au pire du pire. Donc je me disais ouais, au pire du pire ça va quoi. c'est pas dramatique. Mais vraiment je me souviens m'être dit, aujourd'hui, de toute façon, ce risque financier, je suis prêt à le prendre. J'avais sécurisé par l'épargne. Bah, la rupture conventionnelle, pour moi aussi, c'était une façon de sécuriser. Mais je me disais, c'est fort possible que tu l'aies pas. Ouais. Ben, l'objectif étant de partir, plan B, c'est démissionner, c'est tout. Basta, t'auras rien et c'est tout.
Ah ouais, oui, ça allait être ma question. Genre, est-ce que si jamais t'avais pas eu ta rupture conventionnelle, tu serais partie?
C'est sûr.
Parce que j'ai l'impression que quand on parle, bah, on avait cette discussion hier, des fois quand on a marre, tu sais, t'as plein de gens qui disent attends d'avoir un truc.
Ouais.
Et j'avoue que moi je suis très YOLO, donc j'ai tendance à me dire bon, bah, c'est pas grave, j'y vais. Mais des fois c'est vrai qu'il faut sécuriser, etc. Et j'ai du mal à savoir et à comprendre, mais j'ai jamais été dans cette situation. Genre, à quel moment tu te dis. En fait, ma santé vaut beaucoup plus que mon taf parce que, en tout cas, en école, j'ai l'impression qu'on met tellement en avant le statut du travail, l'importance que ça a aussi d'avoir un bon taf, de continuer à travailler, etc. De se dire, bon, bah, finalement, c'est pas que c'est rien, mais j'ai besoin de vivre aussi.
Je pense que c'est aussi le rapport. Parce que moi, je disais à vous que je suis très rationnelle et que moi, jamais, je pense que j'aurais le courage. Et c'est juste inimaginable. C'est, si je quitte mon job, c'est que j'en ai un autre qui m'attend.
Ouais.
Vraiment. Et parce que moi, en plus, je suis pas en couple. Donc, cette idée de demain devoir retourner chez mes parents et un peu assumer que j'ai. C'est, pour moi, ça serait une sorte d'échec, tu vois. Dire, ok, j'ai fait la grande école que vous avez payée, j'ai fait le taf et j'ai dû le quitter parce que pour des. Voilà, j'ai pas. Mes parents, j'ai pas. Après, quand ça touche la santé, le burn-out est quand même assez grave, mais là, pour l'instant, j'en suis pas à ce point-là. Mais juste pour dire, c'est pas ma voie, et j'ai besoin de temps pour trouver. Ça, c'est très dur pour moi à l'accepter. Mais tout ça pour dire que donc. Je pose cette question parce que pour moi, ça serait vraiment l'argument. J'ai du mal à surmonter, et je trouve ça super intéressant d'entendre ça. Après, ce que. On est tous différents, mais...
De mon côté, je pense que ce qui joue beaucoup, c'est à la fois une question de tempérament, quand même, parce que... de tempérament, de qu'est-ce qui est prioritaire pour nous, de pourquoi on fait des choses, de... Enfin, tu vois, par exemple, quand j'ai commencé à dire à mes potes, ouais, vraiment... Mais en gros, ça faisait un an que je disais à mes potes que mon taf se passait pas bien, tu vois.
Sur un mois et demi, c'est ça.
À peu près, ouais, c'est ça. Vraiment. Et je me souviens, j'ai un de mes très bons potes qui me dit, mais Angèle, enfin, pourquoi tout simplement tu cherches pas en parallèle tout, enfin, ça se fait beaucoup. Tu consacres juste un peu de temps à des recherches. Ok, enfin, ça demande du temps, mais recherche à côté, essaie de passer des entretiens, ça t'engage à rien. Et ce qui est très vrai, et c'est ce que j'ai essayé. Mais à un moment, t'arrives en face d'un recruteur. Tu peux déblatérer tout ce que tu veux, mais t'es paumé, tu sais pas ce que tu veux faire. C'est quoi ton projet? Moi, il m'a retoqué, il m'a dit en fait, Angèle, vous avez plein d'énergie, vous êtes dynamique, on voit que vous avez envie, mais il dit, moi, je comprends pas votre projet professionnel, je sais pas où vous voulez aller. Là, je me suis dit, ok, je vais en faire un, je peux en faire 10.
La question,
on est vite répondu.
On salue, jeune entrepreneur.
De théâtre, monsieur du marketing.
Et du coup, donc tu vois, à un moment, il y a ces choses-là qui jouent. Tu peux essayer, genre, moi, je ne te conseille pas d'arriver au point de rupture,
ouais,
parce que c'est vraiment pas un moment agréable. Après, en même temps, voilà, tu vois, aujourd'hui, je vois où j'étais il y a quelques mois, au fond du trou, je vois où je suis aujourd'hui, je me sens pleine de beaucoup, enfin, voilà, pleine de force, revigorée, avec de nouveaux schémas qui se mettent dans ma tête, et je suis assez reconnaissante, en fait, de ce qui m'est arrivé. Mais vraiment, je, enfin, c'est
après, c'est dur, quoi. C'est ce que je disais un peu, Joséphine, tout à l'heure, c'est que, on a tous, enfin, la plupart des gens qui ont fait prépa et école de co, c'est très linéaire, t'as pas le temps de te poser, ouais. À part Apo qui a eu le temps de faire des césures, mais souvent c'est voilà, t'as lycée, moi j'ai fait la fac, je suis rentrée en AST, mais c'est pareil, j'ai pas pris 5 minutes pour me poser et poser les questions qui sont fondamentales, qui ouais. Tu es. Qu'est-ce qui te motive dans la vie?
Ah, bah oui, parce que ce questionnement-là, je pense pas qu'on puisse l'avoir en parallèle d'une activité professionnelle.
Exactement.
Enfin, moi, j'en arrive à. Enfin, ça fait 5 ans que je me pose des questions. Et quand j'étais sortie d'études, j'avais échangé avec un prof. À l'époque, je pensais peut-être continuer en thèse. Enfin, moi, j'adore les études en général. On m'aurait payé pour faire des études sur toute ma vie. J'aurais été ravie. Et du coup, je lui disais oui, bah, et par contre, j'ai grandi dans une famille monoparentale où on a toujours eu à compter nos sous. Donc, je pense un peu comme toi, où j'ai eu conscience en tout cas que, enfin, moi, mon idée de la carrière, c'était avoir suffisamment d'argent pour pas avoir à y penser. Voilà, et en fait, bah, tu vois, moi, ma mère, mes grands-parents sont des immigrés juifs polonais, pareil, qui étaient. Qui bossait au black, donc je pense que ma mère a grandi avec ça, avec cette idée de il faut quand même avoir suffisamment de sous pour ne pas galérer. Moi j'ai galéré un peu moins que ma mère, parce qu'elle m'a quand même donné un environnement qui était ok, mais qui était je pense, des familles beaucoup moins aisées que tous les gens avec qui j'ai fait des études en général, tu vois. Et du coup je suis pas allée en thèse justement parce que je me disais il faut que je gagne des sous, et j'en parlais avec un prof. Et ce prof m'a dit, les questions que tu te poses maintenant, c'est important que tu te les poses. Par contre, fais gaffe, parce que si tu commences à travailler, après, tu rentres dans quelque chose et ouais. Tu t'habitues à ce confort. Et t'as pas le temps de te poser des questions. Parce que déjà, c'est à la place sociale qu'on attend de toi. Et ensuite, c'est plus compliqué à remettre en cause, de faire des choses, de prendre le temps d'avoir une errance. Seulement, moi, à l'époque, je peux pas du tout l'entendre, parce que j'étais genre, il faut que je gagne des sous. Déjà, j'ai réussi à rien coûter à ma mère pendant mes études, etc. Donc, ça, c'est ok. Mais maintenant, il faut que je gagne des sous. Il faut que ce soit moi qui supporte ma mère. Enfin, qui supporte ma mère.
Oui,
maman, c'est pas dans ce sens-là. Mais, non, mais qui si elle est dans le besoin à un moment, qui puisse être support. Et en fait, c'est que maintenant, où moi j'ai fait un truc avec la PEC où ils te posent plein de questions, tu réponds et donc tu réfléchis ton rapport au travail, quel métier pourrait te correspondre et tout. J'ai la chance de le faire avec une conseillère trop cool, du coup elle me dit mais c'est pas grave si on trouve pas de métier. Et à un moment tu t'interroges tes logiques de réussite. Moi la réussite c'est un concept avec lequel j'ai beaucoup de mal. Et aussi t'interroges tes échecs, ce que tu considères comme tes échecs. Donc tu fais la liste de tous tes échecs. C'est un exercice qui est très désagréable à faire. Et donc tu dis qu'est-ce que tu considères comme un échec. Enfin, eux, ils parlent d'opportunités manquées, les opportunités que t'as pas su saisir. Et pourquoi tu les as pas saisies. Et ensuite, il y a une question qui est, si tu pouvais revenir en arrière, lesquelles tu pourrais changer. Donc, moi, il y en a, je peux pas changer. Enfin, j'ai eu des problèmes personnels qu'on fait, par exemple, que j'ai pas pu partir en Erasmus. Bah, ça, je pouvais rien y changer. Par contre, tous les trucs sur lesquels j'aurais aimé revenir, c'est des opportunités que j'ai pas saisies parce que je me disais financièrement, je vais manquer d'argent. Et là, ça m'a fait un déclic de ouf où je me suis dit, je veux pas, dans 5 ans, refaire cet exercice avec l'APEC et avoir à rajouter une ligne de, en 2020, je me suis posé une question et j'ai pas changé parce que je me suis dit, bah non, Katia, t'auras pas assez de sous. Enfin, je me suis dit, je vais pas attendre d'être au bord du craquage complet pour vraiment prendre le temps de me poser ces questions. Après, je dis ça, mais j'ai toujours pas démissionné, tu vois.
Ouais, mais
ça m'a fait une espèce de déclic, et j'en parlais, bah, c'est ce que je t'avais écrit, avec une copine d'école qui, elle, a arrêté sa thèse en cours de route. Ensuite, elle est allée faire du maraîchage. Ensuite, elle est partie en Nouvelle-Zélande. Elle a fait de la restauration. Là, elle revient. Elle sait pas trop ce qu'elle va faire. Et en fait, on a grandi dans le même genre de famille. Et toutes les deux, je pense qu'on a très envie de se lancer dans l'entrepreneuriat. Mais il y a cet aspect financier qui nous bloque en se disant, il faut qu'on ait un truc très sécurisant.
Ouais.
Et le salariat, c'est quand même le truc le plus...
Moi, j'ai pas du tout... Enfin, après, je sais pas, que je me reconnais pas dans ce que vous dites, mais je sais que dans ma famille, on est à fond sur les années de césure. Vraiment, j'ai fait ma première césure, j'avais 15 ans. Enfin, j'ai fêté mes 16 ans en césure. Et depuis, je sais que chaque fois, et je suis revenue de cette année de césure, j'étais au max. Genre, je me suis dit, en fait, je peux tout faire. Si à 16 ans, je suis partie, je suis autonome. Bon, bah, pas financièrement, mais psychologiquement, je savais que je pouvais faire des choses. Et je sais que maintenant, dès que je me pose des questions, je pars quelque part et je m'enferme. Je me dis, c'est le moment de prendre du recul, mais j'ai besoin de sortir de ma vie quotidienne. Et je me reconnais trop dans ce que tu dis de si tu taffes, ou même quand j'étais en études, je le suis toujours, mais voilà. Mais ça fait tellement longtemps que je l'oublie. Non, mais j'ai besoin de sortir de mon cadre et des gens que je vois tous les jours, parce qu'en fait, on est tous dans la même logique. Genre, je vois la prépa, c'était on veut tous faire la même école, donc on taffe de ouf. En école de commerce, oui, on va penser au conseil, ou oui, on prépare sa carrière, et en fait, on prend pas de temps pour réfléchir à ce qu'on a envie de faire. Et même si tu pars en Erasmus, enfin, moi, je suis partie en Finlande, donc au fin fond de nulle part, et j'ai pris 3 mois où j'ai vécu ma meilleure life, en vrai. Mais c'était aussi un moment où, comme j'étais loin de mon milieu normal, j'ai pu prendre un temps aussi pour moi, pour réfléchir à tous mes trucs. Et c'est vrai que après, niveau entrepreneur, je suis plus de l'école, on peut tout faire avec rien du tout. Mais je pense que ça aussi, ça vient de ma famille et du fait que j'ai l'impression que dans mes études, on m'a tellement répété, mais depuis la primaire, tu vois, je me souviens de profs qui me disaient, mais t'iras tellement loin, t'es super forte, t'as des bonnes notes. Pareil au lycée, genre, t'iras super loin. En prépa, on nous a bassinés on est entre nous, vous êtes l'élite de la France. En école aussi, j'ai l'impression que du coup, je me suis mis vraiment un tag d'une certaine valeur, et qu'au début, je me disais, en fait, je veux pas descendre en dessous d'un certain truc parce que j'y les vaut pas. Et maintenant, je commence à me dire, finalement, je peux m'en sortir financièrement dans n'importe quoi. Mais c'est juste qu'il faut que j'accepte. Pas forcément de rétrograder, parce que je pense pas qu'il y ait des métiers qui soient moins cool que d'autres. Mais juste d'accepter que, peut-être je serai pas la manager de telle BU dans telle grosse entreprise. Mais que, ce que je disais, genre, je rêve d'avoir un coffee shop, que je serai serveuse dans un coffee shop et que ça me permettra de faire plein de trucs cool à côté. Mais je pense que c'est vraiment aussi des déclics de déconstruction de la réussite.
Ah, ouais. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec l'idée de qu'il y a besoin, parce que t'es en emploi, tu peux pas avoir ces questions, parce que moi, je les ai eues. Mais après, c'est chacun, je passe ma vie à réfléchir. Je suis pas dans l'action, je suis dans la réflexion et la remise en question. Et je trouve que, c'est justement sans cette vie professionnelle, j'aurais pas eu le questionnement que j'ai eu, je pense. Et ce que j'ai pu vivre comme des échecs, alors que ça l'était pas vraiment, je pense que justement c'est ça qui m'a aidé à me protéger. Surtout en France, je trouve qu'on a vachement de mal avec l'échec. Ouais. Par rapport à des Américains ou anglo-saxons.
C'est clair.
Dès que t'as l'échec, tu vas te dire c'est la fin de ta vie, je suis une merde, alors que t'apprends ton échec.
Moi, je sais pas. J'ai l'impression que ça dépend un peu des personnes. Enfin, tu disais ça dépend des personnalités et que t'étais plus dans le réfléchir que dans le faire. Et j'ai l'impression que selon, du coup, les gens, l'échec est pas... j'en sais rien. J'ai pas mon avis non plus.
Après, le concept d'erreur, le concept d'erreur, parce que je vais te filmer. Par exemple, comme tu l'as décrit tout à l'heure, Kétia, moi j'ai jamais vu l'erreur sous cet angle-là, et c'est hyper intéressant de voir plus comme l'opportunité manquée. Le truc, en tout cas, lequel à l'intérieur, un truc qui t'a dit non. Mais d'analyser pourquoi, en fait. C'est ça qui est intéressant. Parce qu'après, en tant qu'erreur, par exemple, tu m'aurais demandé c'est quoi tes erreurs, moi, je pour moi, le concept d'erreur n'existe pas, en fait. T'as que des expériences, en fait, qui te construisent. Non, mais c'est vrai. Enfin, en tout cas, c'est une conviction personnelle, mais t'as que des choses que tu vis qui t'enrichissent, qui parfois sont difficiles ou plus ou moins difficiles, mais alors que là, comment tu l'as présenté, je me dis, ah oui, là, effectivement, ça donne beaucoup plus à réfléchir que juste de dire, j'ai raté quelque chose, c'est un peu... Ça veut rien dire, en fait. Donc, tu rates rien. Qu'est-ce que ça veut dire, rater, quoi? C'est un vaste sujet.
Et du coup, moi, je veux savoir, cette histoire de théâtre, comment ça se passe alors? Qu'est-ce, déjà, pourquoi le théâtre? Enfin, qu'est-ce qui a fait quand t'as démission, enfin, quand t'as eu ta rupture co, et que t'as pensé à l'après? Pourquoi le théâtre? Et comment ça s'est passé, là? Comment ça se passe?
Alors, pourquoi le théâtre? Le théâtre, c'est quelque chose qui fait partie de ma vie depuis longtemps. J'en discutais il y a pas longtemps avec ma maman. Je me demandais, mais comment c'est venu cette histoire de théâtre? Parce que j'ai commencé quand j'étais au CEA, donc il y a très longtemps, il y a au moins 15 ans. Oui, c'est ça. Ouais. Et elle m'a dit, mais je sais pas, il y avait une liste d'activités, c'est toi, ça t'a plu, t'as voulu aller tester, et puis après, enfin voilà, t'as continué, quoi. Parce que je me suis dit, tu sais, les parents, des fois, ils t'inscrivent à des trucs que eux, ils auraient voulu faire, ils ont pas pu faire. Et moi, non, je me suis naturellement dirigée vers ça. Donc le théâtre, en fait, ça fait vraiment partie de moi depuis très longtemps. Pour moi, c'est ma passion, en fait. C'est le truc qui m'anime, c'est monter sur une scène, c'est là que je me sens le plus vivante. Ça me fait vibrer, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que de susciter une émotion chez quelqu'un quand avant il n'y avait rien, enfin rien au sens où t'es neutre, et là d'un coup soit tu fais rire, soit tu émeux, soit tu, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau. Et puis j'en ai fait tout au long de ma, enfin, depuis que je suis gamine, en fait, j'en ai toujours fait, donc soit en amateur, dans des troupes, j'en ai fait au conservatoire, j'en ai fait dans des troupes semi-professionnelles, et là j'en ai fait en dernier en date, en fait. Je commençais à rentrer dans une logique de challenge, en fait. Je me dis, bon, ça fait quand même longtemps que j'en fais. J'ai des très bons retours sur le jeu que j'ai en tant que tel, de la part de mes metteurs en scène, des différents profs que j'ai eus. Et donc là, je me dis, voilà, Angèle, challenge-toi un petit peu, ça peut être quoi cette année, nouveau challenge et tout. Et je tombe par hasard sur le cours Clément, on n'est pas encore, mais sur le cours Clément, qui est à Paris et qui propose une classe Avignon. Donc le concept, c'est pendant un an, tu construis ton projet et tu le joues au Festival d'Avignon, au Festival Off, l'été suivant. Je me chauffe, je me dis trop bien, je passe le cours audition, je suis prise, on a une super team qui se construit et tout. Finalement le projet n'a pas lieu puisque l'Avignon a été annulé cette année. Mais en février de cette année, donc quand j'étais encore en fait en poste, je me dis challenge suivant. Enfin, tu vois, il y a un truc que je marche beaucoup de challenge, et dans le cas, c'était la première fois que je me challengeais autant, mais je me dis qu'est-ce que ça pourrait être l'étape suivante. Et là, je me dis, vas-y, cours Florent, gros délire, ça serait quand même énorme. Je passe au moins le concours pour kiffer, et voilà. Le concours de la classe libre, du coup, parce que cours Florent fait plein de cours, et le Saint Graal chez eux, enfin voilà, c'est la classe libre. Donc, je m'inscris à 17h57, alors que la fin de la session, c'est 18h.
On adore.
En février dernier, donc, au concours. Et voilà, je passe le premier tour, le Covid passe par là, donc le premier tour c'était, voilà, enfin, j'ai eu les résultats en mars, et j'ai passé le deuxième tour là, la semaine dernière, donc ça s'étend vraiment beaucoup dans le temps. Mais en fait, là ce qui se passe, c'est que ce qui était un challenge au début d'année, et qui était en fait, voilà, en parallèle de mon taf, en fait, une autre façon de continuer le théâtre, je me disais, bah, si je suis prise, j'essaierai d'avoir un temps partiel, ou j'en sais rien, ou d'ici là, je serai partie d'une vidéo, enfin, je sais, quand même, puisque la question de démission est quand même là encore. De fil en aiguille, là, maintenant, j'ai tout arrêté. En fait, je ne suis pas partie pour le théâtre, je suis partie pour ma santé, tout ça. Mais là, en fait, du coup, d'un seul coup, le champ est complètement ouvert. Et je me dis, mais pourquoi pas, en fait, enfin, ouais. Ce truc, en fait, depuis que t'es gamine, il y a que ça, qui te fait vibrer, qui ne te déçoit pas, auquel tu reviens tout le temps. Enfin, j'ai fait du théâtre en Espagne, en espagnol, tu vois. Enfin, alors j'étais en stage là-bas. Je veux dire, ça me suit partout. Je me dis, mais pourquoi pas, enfin, qu'est-ce que t'as à perdre? Tente. Et là, le fait de passer Florent, j'ai des frissons en disant ça, le fait de passer Florent, ça a fait un déclic, en fait, parce que je me dis, que je sois prise ou pas pour Florent, en fait, c'est pas tant la question, ça déclenche quelque chose qui me fait dire c'est possible, en fait. Là, ça tient qu'à toi d'y aller et de faire ce qui t'anime depuis tout ça. Et alors, pour la petite anecdote, truc de ouf, la semaine dernière, j'avais mon premier rendez-vous chez Pôle emploi pour finaliser mon dossier, pour avoir mes allocations. Et je tombe sur un conseiller extraordinaire. Je tiens à le dire parce que c'est la réputation de Pôle emploi, bon, on entend souvent les trucs négatifs. Ouais. Et là, je suis tombée sur un monsieur extraordinaire qui s'appelle Karim, donc Pôle emploi de la dernière sur scène. Merci Karim, qui m'a trop donné la patate parce que il m'a dit, mais vous avez un projet super, foncez, vous savez, c'est un métier duquel on peut vivre dignement. Chez nous en France, on a beaucoup de chance. Il suffirait de multiplier, voilà, la pub, l'animation. En plus, on recherche des animateurs socioculturels dans la région, on en manque. Lancez-vous. Il dit, moi, je suis sûre, Angéline, je vais me souvenir de vous, je vous verrai à la télé dans 10 ans et tout. Je me suis dit, mais incroyable, tu vois. C'est-à-dire, si un mec qui ne me connaît pas et croit en mon projet, je me dis, mais là, il faut que tu fonces. La petite anecdote, mais voilà, c'est comme ça que ça s'est fait, en fait. Et un peu, moi je trouve qu'il y a un peu la même logique, en fait, qu'en entrepreneuriat, parce que tu l'avais donné un peu comme axe de réflexion au début, et je trouve même dans la façon dont on voit
l'entrepreneuriat. J'avais déjà oublié. T'as même dit, pourquoi tu me regardes?
Ou en fait, mon changement de penser sur les choses, c'est fait par l'action. Tu vois, j'ai commencé petit, en fait, j'ai commencé par faire ça en parallèle, et d'un coup, ça devient une vraie piste. Et du coup, moi, je commence vraiment à me convaincre que tu vas pas sortir des espèces de grandes idées, genre, ah, mais demain, je vais devenir peintre, ouais, ça commence vraiment bien, pardon. Ouais. Je dis n'importe quoi, pardon.
Tu vois,
alors qu'en fait, en s'écoutant, comme ça, petit à petit, bah, t'augmentes le volume et tu te dis, ah, mais ça, en fait, j'ai fait ça, ah, mais j'en suis capable, ah, mais ça fait kiffer, ah, non, en fait, ça, non, ça, je vais pas dire, je suis vraiment,
ouais. Bah, dis-toi ce que tu dis, comment tu le dis?
Bon, bah, écoute, tant mieux. Mais tu vois, et ce petit, qui au début est un peu en parallèle de certaines choses, mais qui, au fur et à mesure, en fait, t'amène à. Soit ça prend l'ampleur, soit ça s'éteint. soit ça s'éteint parce que ça correspond pas, ou je sais pas. Mais au moins, tu tentes comme ça, t'appréhendes et à tâtons, tu arrives à, je sais pas, ouais, à te tester aussi, à savoir est-ce que ça me plaît, est-ce que ça me plaît pas. Et par exemple, même au niveau d'un taf, demain par exemple, je me dis non, finalement, j'ai quand même envie d'avoir un bon salarié parce que j'ai besoin de cette sécurité ou peu importe. Ben, je me dis, même là-dedans, est-ce qu'il faudrait pas s'autoriser, en fait, à se tromper aussi? Et moi, sur ça, je trouve qu'Etia, c'est super parce que, y a pas de raison que tu te dises, ah, ben, mon taf, ça se passe pas bien, ben, tant pis, j'y reste. En fait, pourquoi on fait ça?
Et justement, là, je me pose une question actuellement, et je pense que t'as peut-être des réponses. Enfin, en tout cas,
c'est. Coach, Angéline.
T'as compris, Diana, après des phrases de coach bien placées.
Moi, depuis que je suis dans mon travail actuel, enfin, les premiers mois se sont pas très bien passés. En gros, je me suis dit, bon, je pense que c'est la fin de ma carrière de ce métier-là, mais il faut juste que je reste un peu le temps de trouver autre chose. Je fais le constat que c'est un peu compliqué de trouver autre chose en parallèle, même si j'essaye de tester des trucs, et le télétravail aide aussi, parce que je peux être dans une autre région. Enfin, je dis pas que je fais d'autres choses sur mes heures de travail. Je dis juste rien que le temps gagné en transport, c'est plus pratique. Et en fait, là, je me pose la question d'attendre d'avoir un vrai projet avant de démissionner, même si mon projet n'est pas complètement abouti, mais au moins d'avoir ce cadre qui fait que je serai pas lâchée dans la nature. Je me pose notamment cette question parce que j'en parlais à ma voisine qui, elle, avait démissionné, enfin, était en fin de contrat et elle avait eu un an, en gros, où elle a rien fait. Elle me disait, par contre, et un plan pour après, parce que moi je pensais que j'allais faire plein de trucs, et en fait comme j'avais pas de cadre ni de choses qui m'animaient particulièrement, bah, je me suis retrouvée un peu décontenancée. Et moi les trois seuls mois où j'ai pas travaillé entre deux contrats, j'étais un peu dans cet état là j'étais perdue, perdue dans ma vie, parce que tu passes quand même d'un travail qui te prend tout ton temps. Enfin, si t'as tes week-ends, voilà, là, on se réunit, mais sinon, ton travail, c'est quand même ce qui va rythmer ta vie à un moment où ta vie n'est plus rythmée par rien.
C'est ce qui s'est passé pendant le Covid pour beaucoup de gens. Ils se sont retrouvés en télétravail et en chômage partiel.
Oui, mais là, en plus, il n'y a même pas de perspective, tu vois. Parce que des fois, j'étais en intercontrat pendant un mois, et là je vivais ma meilleure vie. Je me disais, c'est bon, t'as un mois pour kiffer, après il y aura des sous, mais au moins je savais ce que j'allais faire.
Quelque chose après.
Voilà, qu'il y a quelque chose après. Et en fait, là je me pose vraiment cette question de où attendre que j'ai un truc défini tout en courant le risque que si ça se trouve, j'arriverai pas à le définir parce qu'il faudrait que je m'arrête pour pouvoir le définir, ou alors m'arrêter en courant le risque d'être un peu perdue. Donc je me demandais comment ça s'était passé pour toi. Alors c'est un peu particulier aussi vu que t'étais en épuisement professionnel, mais quand ton contrat s'est arrêté, comment tu t'es sentie? Est-ce que il y avait pas comment ça fait de passer à quelque chose de très rythmé à tout d'un coup plus rien?
Alors du coup au début, moi, je saurais pas te donner l'espèce de grand conseil, mais au moins, bah, te raconter, moi, comment ça s'est passé. Au début, ça fait bizarre, mais en même temps, bah, moi, j'étais soulagée. Extrêmement soulagée d'arrêter, mais je pense que, globalement, au début, t'as un peu un truc d'euphorie, voilà, où tu te dis, c'est fini, je suis en vacances, je vais pouvoir me reposer, j'ai pas de rythme, je me couche quand je veux, je me lève quand je veux, bref, tu kiffes un peu. Mais moi, je savais que ce temps-là n'allait pas durer longtemps parce que je suis d'une personnalité très active et genre me laisser aller sur le canapé toute la journée à rien glander, vraiment, c'est pas du tout mon truc. Et je savais déjà que ce temps de vraie pause où j'ai posé mon cerveau et je profitais juste de faire des choses. Alors moi, j'avais deux enjeux. J'avais à la fois donc de reprendre pied, en fait. Donc là, je me suis autorisée à ne faire que des choses qui me faisaient plaisir, ou vers lesquelles j'allais naturellement avec envie, sans me donner de contraintes. Et voilà, au début, c'était plus. Je me suis dit, bah, c'est vacances, je profite d'être en famille, je profite de. J'ai mon papa dans le Nord, ma mère en Bretagne. Donc voilà, ça me faisait aussi changer d'air, de région, etc. Après, j'ai eu une phase où, en gros, on va dire, septembre, la reprise pour tout le monde. Moi, je me suis fait 2 mois, voilà, de vacances, de vraies pauses. Je me suis dit, sinon, si tu sais pour rembringuer, ça sert à rien, tu es encore, voilà. À partir de septembre, c'était plus, pose-toi, prends le temps pour commencer à réfléchir à des pistes pro, d'essayer de voir, qu'est-ce qui te plaît. Parce qu'en fait, l'avantage, quand tu te diriges vers que des choses qui te plaisent ou qui te donnent envie, moi je me suis rendu compte, des opportunités s'ouvrent. Tu vois, pendant l'été où j'étais en vacances, exemple, je vois passer le fait que mon école cherche des animateurs bénévoles pour animer la fresque du climat. Bénévolement, j'ai déjà dit bénévole.
Vraiment, c'était pas payé. Retenez-le. Est-ce que j'ai déjà dit que c'était bénévole?
pour animer en fait des ateliers de sensibilisation au dérèglement climatique aux nouveaux étudiants de l'école. D'un coup, tu ressens les choses, tu vois, quand tout est neutre, tu ressens les choses qui te font vibrer à l'intérieur. Là, je me suis dit, vas-y, j'y vais. Je me suis pas posé la question, est-ce que je suis capable? Je m'en foutais, genre, j'avais juste envie de le faire. Donc, j'y suis allée, je me suis formée, j'ai fait l'atelier. Sympa. Je me suis dit, ouais, intéresse, je sais pas trop. Voilà, ça me laisse éthique, mais pourquoi pas. En tout cas, les enjeux, vraiment, ça m'intéresse. J'ai envie de creuser cette question. Et là, ça commence à être des fils que tu tires. Le fait d'être que connecté à qu'est-ce qui me fait plaisir et qu'est-ce qui me donne envie. Je le répète parce que c'est vraiment important. Moi, ça m'a fait apparaître des fils que je commence à tirer du coup. Et à partir de septembre, alors à la fois je creuse ces fils, soit en suivant, en voyant des entreprises ou qu'est-ce qui se passe dans ce secteur, qu'est-ce qui imaginer, je laisse divaguer mon esprit à me dire bah, qu'est-ce qui pourrait être demain utile pour ce secteur, etc. Autre exemple, tu vois, je me suis mise à de la calligraphie, mais calligraphie, en fait, je ne sais pas si c'est le vrai mot, mais juste le geste d'écrire. Je me rends compte que j'adore entendre quelque chose et retranscrire à l'écrit. Alors, juste le geste, en fait, me plaît. Et de fil en aiguille, je tire un fil là-dessus. Je commence à me dire, bah, j'adore voilà, écouter les gens, retranscrire ce qu'il en est, du coup, comment je pourrais en faire un contenu, etc. Et là, ça commence à me donner des idées de création de projet, en fait. Mais du coup, est-ce que demain, je pourrais faire la biographie de Monsieur Tout-le-Monde? Est-ce que ça pourrait intéresser les gens? Oui, non. Et là, tu vois, je commence à prendre rendez-vous avec des gens pour discuter du sujet. Et bon, voilà, pour expliquer un peu, en tout cas, le cheminement de pensée vers lequel ça me dirige. Et la dernière chose que je voulais te dire, ouais, c'est... Donc voilà, septembre, je fais toutes ces pistes de réflexion. Je lis des contenus aussi... notamment, je t'en avais parlé à Pau, les ateliers d'auto-coaching de chance,
ouais.
Où j'ai acheté un bouquin qui s'appelle « Visualiser sa vie en quelques coups de crayon », qui m'a été conseillé par une ancienne collègue. Et qui sont, ça, c'est vraiment des outils très concrets d'aide à la réflexion, en fait, pour poser les choses de qui je suis, qu'est-ce qui m'anime, comme on disait tout à l'heure. Et il y a un moment où là, j'ai commencé à, moi, retomber dans mes travers de anxiété, anticipation, qui sont donc les choses qui dépendaient de moi et qui m'ont mise en difficulté dans le travail. Je commence à retrouver ces difficultés, alors je suis en inactivité, Je ne suis pas salariée, je n'ai pas de travail professionnel, je suis active par ailleurs, mais. Et là, je retombe dans les mêmes problèmes. Donc là, je me dis, ok, là, il y a un souci, j'essaie de décortiquer ça. Et je me rends compte que réfléchir à chaque jour de ta. Chaque jour de la semaine, qu'est-ce que tu vas faire de ta journée, 7 jours sur 7, bah là, ça a commencé à me fatiguer. En fait. Je me suis dit, là, ça fait 3 mois, j'ai besoin de trouver quelque chose quand même où j'aimerais bien que ça me redonne un rythme. Et il s'avère qu'au même moment, il n'y a pas de hasard. Hein. J'ai des potes de ma promo qui ont monté leur projet il y a 2 ans. Elles font des tasses comestibles. Ça s'appelle les petites françaises de ce projet.
Tu laisses mon projet. Donc on attend les tasses délivrées sur le campus de l'avion.
Au même moment, en fait, elles cherchent du monde jusqu'à décembre pour les aider en production pour fabriquer les tasses. 2 jours par semaine. Là, je me dis, ouf, voilà, moi, je leur écris tout de suite, j'adore leur projet, je les suis depuis le début, ça fit, bref, on est hyper contents, on se dit, bon, on peut bosser ensemble, et bam, ça démarre.
Ouais.
Et donc là, pile poil à ce moment-là, 2 jours par semaine, en fait, je commence à. Il y a quelque chose qui me redonne un rythme, comme tu disais, parce que, à un moment, vraiment, je te dis, cette réflexion, je vous l'assure, je me suis dit, non, là, ça commence vraiment à me fatiguer, à devoir réfléchir tous les jours, ok. Qu'est-ce que je fais de ma journée? Ben, c'est bon, j'aimerais bien débrancher à nouveau le cerveau et me dire là, je n'ai pas besoin de réfléchir au planning. Et donc, voilà, mais les choses se sont goupillées finalement un petit peu naturellement et il s'avère que le timing est parfait parce que moi, tant que j'ai pas les réponses de Florent, j'ai quand même du mal à me projeter dans autre chose et ça va être d'ici novembre, début décembre. Donc, les filles ayant besoin de moi à peu près jusqu'à ce moment-là, ça tombe parfaitement en fait. Donc voilà, j'ai commencé staff qui me permet de 2 jours par semaine aller faire un truc pareil qui m'ajuste. J'ai eu cet élan encore une fois à l'intérieur de me dire ah mais ça me ferait trop kiffer, j'y vais et je kiffe. Et pareil moi ça me guérit parce que je retrouve quelque chose où le matin. Je leur ai dit j'ai trop envie d'aller travailler, tu vois, je suis la veille, je dis à Serge ah dommage je vais travailler, je vais en atelier, je vais en prendre, c'est trop cool. Et voilà, du coup, ouais, il y a plusieurs. Tu vois, je suis passée par plusieurs périodes déjà. Et comment, ouais, il y a eu des différences de rythme. Et je sais pas si à un moment il y a une question de personnalité qui joue, si c'est sûr. Parce que c'est quand même vertigineux, tu vois, si je me pose 5 minutes et je me dis, tu sais pas ce que tu vas faire. Mon père, par exemple. Mon pose plein de questions. Mais qu'est-ce que tu vas faire demain? Il y a un truc, c'est normal. Mais je sais pas quoi lui répondre. Je lui dis, mais t'inquiète, papa, je cherche. Mais bien sûr, c'est vertigineux, en fait, parce que... Mais moi, je trouve que sa question, elle est violente, parce que je peux pas lui dire... Je peux pas aujourd'hui avoir une grande idée de demain je vais devenir data scientist. Pour moi, c'est impossible. Je pense pas que ce soit possible que.
Ouais, je te conseille pas.
Moi, je pense pas que ce soit possible, tu vois, de se poser, de se dire voilà, mon grand projet, c'est ça.
Non, mais ce que je trouve marrant, c'est. Enfin, marrant, hyper intéressant, c'est que dans ma tête, il y avait deux types de personnes. Il y a les gens qui ont une passion, ouais. Et il y a les gens qui juste n'ont pas de passion ou de vocation et aiment bien faire beaucoup de trucs. Genre, j'avais vu la vidéo, le TED de la fille qui parle des multipotentialistes. Mm-hmm. Je me suis dit, ah, enfin, quelqu'un qui comprend pourquoi je m'intéresse soudainement à un sujet toutes les semaines. J'ai une nouvelle passion, voilà. Et donc, je me disais, c'est peut-être pour ça que, pour moi, c'est très flou ce que je vais faire après. Tu vois, par exemple, j'en parlais avec mon copain, et lui, son truc, c'est la musique. Donc, il fait ça en parallèle de... Il a toujours fait ça, un peu comme toi, le théâtre. Mmh. Il fait ça en parallèle de son emploi. Mais lui, c'est clair et net. Si je lui disais... je crois que c'était une de tes questions, d'ailleurs. Si là, tu pouvais arrêter de travailler, qu'est-ce que tu ferais? Lui, c'est clair qu'il ferait de la musique. Moi, on me dit ça. Mmh. Je ferais plein de trucs, en fait, mais j'aurais pas un truc en particulier. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant, parce que toi, le théâtre, ça a l'air d'être quelque chose qui est quand même un fil rouge dans ta vie et qui est fondamental. Et malgré ce fil rouge-là, tu te poses quand même toutes ces questions de... Enfin, tu vois, il n'y a pas cette espèce d'éclair. Moi, je me disais, il y a des gens, ils ont été baignés par un éclair divin qui fait qu'on leur a donné une vocation et que pour eux, c'est clair. Et en fait, ça me rassure un peu, d'une certaine manière, de voir que ces questionnements, tout le monde les a.
Et puis aussi que tu peux... Que tout se mélange. Je sais
pas,
que
moi, complètement,
Après, il y a même la réalité du monde du travail, je trouve, aujourd'hui, qui vient s'ajouter à ça. C'est-à-dire, est-ce que demain, concrètement, on peut tous être capable de faire qu'un seul métier? Moi, j'y crois pas. Oui. Moi, je me dis, il va falloir être capable d'être multicasquette, de pouvoir passer d'un secteur à un autre. Alors, aujourd'hui, je sais pas si toutes les entreprises sont matures pour accepter ça ou entendre ça, ou avoir des candidats, tu vois, qui font ça. Mais, franchement, moi, je vois pas comment les choses pourraient en être autrement. Le Covid nous le rappelle. À un moment, on va pas pouvoir tous se pointer à Pôle emploi et dire bah ouais, mais moi en fait je faisais ce métier depuis 2 ans et aujourd'hui, qu'est-ce que je fais maintenant? J'attends, donnez-moi du travail, puis ça te conviendra pas parce que ce taf là tu le retrouveras peut-être pas ailleurs. Donc, au final, entre la complexité de la multitude de choses qui peuvent nous attirer en tant qu'individu et la réalité du monde du travail qui de toute façon fait que tu pourras pas te contenir à faire un seul truc non-stop tout le temps partout. Franchement, moi, tu vois, aujourd'hui, je me dis, une vie peut vraiment ressembler à t'es en temps partiel, salarié, sur un sujet qui t'intéresse, sur lequel t'as des vraies compétences techniques. Par exemple, demain, tu pourrais te dire, je suis data scientist 2 jours par semaine en freelance ou en entreprise. Mais en parallèle, t'as un vrai élan, autour de la food ou autour de la santé, un projet sur lequel t'as vraiment envie de t'investir. Donc un jour par semaine, t'es là-dessus, peut-être bénévolement. Et il y a une dernière activité, par exemple, t'adores la photo, et ça, tu le fais encore une fois, voilà, soit en freelance, soit le reste de la semaine, ou ponctuellement par les événements, etc. Et il y a un des jobs qui va être nourricier parce qu'il va te permettre quand même de payer le minimum vital et tout, mais le reste c'est du kiff, et dans tous les cas tu t'y retrouves parce que dans les 3 métiers en même temps tu t'en retires quelque chose qui nourrit quelque chose de différent ta personnalité. Moi je suis persuadée de moi, c'est ça, tu vois, enfin,
Oui, je suis assez d'accord avec ça. Mais attends, du coup, toi, tu parlais tout à l'heure des opportunités que t'avais ratées. Mm-hmm. Et du coup, est-ce que c'est des choses que t'aimerais faire maintenant et c'est ce à quoi tu penses? Enfin, tu nous as pas du tout donné non plus le détail, super général.
Oui.
Mais, ou alors, est-ce que t'as plein d'autres projets et c'est pour ça que tu posais la question?
Bah, en gros, moi, les opportunités que j'ai manquées, c'était surtout de me poser et faire autre chose que juste suivre la voie qui était tracée pour moi globalement.
Okay.
Je me rappelle plus exactement ce que j'ai noté dans mon tableau de la PEC. Je me rappelle juste qu'à un moment j'ai eu une illumination où je me suis dit wow, l'argent c'est clairement, enfin la peur de manquer d'argent c'est clairement mon plus gros facteur de prise de décision.
Ok.
Après là oui aujourd'hui moi j'essaye en parallèle de mon taf de tester plein de trucs. Enfin tu vois la démarche. Que t'expliquais, j'essaye de le faire. Seulement, je peux poser des demi-journées. Enfin, tu vois, je pense que ce que je pourrais faire en un mois, si j'avais pas mon emploi salarié qui me prenait tout mon temps. Plus maintenant, ils ont rajouté des couvre-feux, donc ça devient encore plus compliqué. Je sais pas, maintenant, je le fais en 6 mois, quoi. Donc, j'avance lentement. Donc là, je me pose vraiment la question d'arrêter et un peu comme ce que tu disais, de tester des trucs qui me font plaisir. Alors moi, les pistes que j'ai, c'est surtout dans l'alimentation. Moi, le truc que j'ai... Enfin, l'agriculture et l'alimentation. J'ai fait du bénévolat en restaurant, c'est le truc que j'ai le plus kiffé. La cuisine, c'est un des trucs qui me fait le plus plaisir. Donc après, je sais que je vais pas faire cuisinière, par exemple, mais... les lieux où tu peux repenser un peu ton alimentation et la manière de la produire, j'aimerais avoir l'occasion d'y passer du temps et de m'y investir. C'est très fou.
Mais par exemple, si tu sais que ton frein, toi, c'est la sécurité financière, est-ce que tu as déjà essayé de poser clairement les choses? C'est-à-dire que ce soit plus quelque chose de flou dans ta tête, mais de te dire, ok, concrètement, par mois, je dépense ça.
Ouais.
Mon état financier fait que, est-ce que je pourrais tenir, par exemple, 6 mois sans rien?
Oui, oui, et puis même, clairement, c'est clairement plus un frein, parce qu'en fait, ça fait 5 ans que je travaille, je suis bien payée, et j'ai atteint un niveau où je peux vivre, je pense, un an sans problème.
D'accord, du coup, qu'est-ce qui freine?
Je pense que ce qui me freine, c'est plus l'idée de me dire, je vais me retrouver, enfin, je veux que cette pause, elle ait son plein potentiel, que je l'exploite à fond, en fait. Et du coup, j'aimerais bien avoir un projet un peu mieux défini avant de me lancer.
Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode de Plouf. On espère que ça vous a plu. En attendant les prochains épisodes, on peut se retrouver en ligne sur Instagram, notre newsletter qui continue à décortiquer les différents mécanismes d'orientation, ou si vous voulez échanger avec d'autres personnes qui se posent des questions sur notre groupe Facebook. On vous met tout en description. À bientôt !